Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin avec Emmanuel Botta, qui est co-auteur d'un livre avec Béatrice Mathieu sur Elon Musk, un livre qui sort aujourd'hui. Alors avec Laure, on se posait la question de savoir est-ce que c'est un génie ou un fou. Après avoir lu le livre, on n'a pas la réponse, mais on apprend beaucoup sur Elon Musk, sur son parcours, sur ses ambitions. On va commencer par le début, tiens. Cette rencontre, cette adhésion à la Mars Association, où il y a rencontré son mentor, 2001. Si mon souvenir est exact, 2001, Elon Musk sort du bois, et d'ailleurs met 100 000 dollars sur la table pour rentrer dans cet assaut. Expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Oui.
Effectivement, on est au tout début des années 2000. Musk est déjà un multimillionnaire, mais comme il y en a beaucoup en fait à cette époque-là dans la Silicon Valley, il a vendu ses entreprises, il ne sait plus vraiment quoi faire, mais il a toujours ce rêve qu'il anime depuis qu'il est tout petit d'aller sur Mars, mais qui est un rêve un peu éthéré et pas forcément très formalisé. Et tout d'un coup, il tombe sur le livre de Robert Bob Zubrin, qui est un ingénieur du spatial, qui est un livre entre le roman et le livre pédagogique sur comment on fait pour aller sur Mars et comment on fait une fois qu'on est sur Mars pour y vivre. Et là, c'est une sorte de découverte. Et il fait effectivement, chaque mois, il y a une sorte de grand dîner, grand raout qui sert à lever des fonds de la Mars Society avec des gens qui croient eux aussi en ce rêve martien. Donc, il y va. Et à la fin, effectivement, il donne 100 000 dollars, ce qui est gigantesque, là où les gens...
Ils sont très contents, du coup.
Ah oui, c'est plus d'une année de fonctionnement, mais il veut effectivement ensuite re-rencontrer Bob Zubrin, et il y a un rapport, effectivement, qui se met en place, alors j'allais dire, bon, c'est de la psychologie qui est peut-être à Katsu, mais un peu de une sorte de figure tutélaire, de père de substitution, sachant qu'effectivement, avec son vrai père, Elon Musk, la situation est très tendue, il se voit plus d'ailleurs aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui va faire, qui va se dire, en fait, c'est possible. En fait, on peut aller sur Mars. Et là, à ce moment-là, il se met en branle quelque chose de « Maintenant, comment je fais pour avoir des fusées ?» Et on raconte ensuite, effectivement, comment ensuite il va en Russie. Alors, effectivement, au final, il n'arrive pas à acheter des fusées parce qu'en fait, les Russes le regardent de haut en disant « Mais c'est qui cet Américain qui
Vous arrive. Racontez d'ailleurs la scène, il va avec un des spécialistes de l'industrie spatiale, Jim Cantrell, et il y va avec un t-shirt rencontrer les Russes. On lui crache sur ses chaussures.
Hein. Oui, ce qui est une humiliation suprême en Russie, c'est une façon de dire tu ne vaux rien, je ne te parle même pas. Il repart avec rien. Et en fait, en parallèle, il avait quand même commencé à travailler sur une possible fusée qu'il aurait fabriquée. Et il dit effectivement, notamment à Jim Cantrell qui l'accompagne, c'est pas grave en fait, je vais faire ma fusée. Alors Jim Cantrell se dit, bon, il est définitivement cinglé, je l'ai accompagné vraiment pour rien, j'ai perdu mon temps. Il commence quand même à regarder un petit peu ce qu'il a griffonné dans l'avion. Et en fait, ça tient très bien la route. Il n'a pas encore le modèle de fusée réutilisable, mais il a quand même construit une fusée à un moment où c'était inimaginable. Il n'y avait que les grandes puissances avec des équipes monstrueuses qui étaient capables de faire des fusées.
Il y a ce point quand même qui revient dans tous ces projets, c'est que systématiquement, on ne le prend pas au sérieux, on le regarde de haut et on attend son échec.
Oui.
Et finalement, ça ne vient pas.
Oui, c'est un peu l'histoire de la vie de Musk depuis qu'il est tout petit, hein, parce que même tout petit, ce qu'on raconte aussi dans le livre...
Vous avez rencontré ses parents.
Voilà, effectivement, on a eu son père, sa mère... Il nous explique qu'il a été obligé de faire plein d'écoles différentes parce qu'à chaque fois, les proviseurs arrivaient en disant enfin, « Je pense que votre fils est, voilà, est peut-être déficient, il faut le mettre ailleurs parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut. » Et par ailleurs, il est banni par ses petits camarades. Ensuite, dans toutes ces entreprises, on lui dit « Non, enfin, ça ne marchera jamais. » Ou si ça marche, ça va échouer. Alors, le nombre de fois on a dit « Tesla va planter, SpaceX, les fusées n'écolleront pas. » En Europe, on était assez contents de notre puissance, effectivement, que ça soit au CNES, enfin, de notre savoir-faire, on disait « Mieux. » Bon, il est gentil, ce milliardaire, il a de l'argent dépensé, c'est tant mieux. Mais ces fusées ne décolleront jamais. Ça a décollé aujourd'hui, c'est le premier lanceur spatial. Donc c'est un peu, effectivement, à chaque fois, il déjoue les pronostics.
Alors apparemment, enfin, vous dites dans votre livre qu'il y a deux ans, il reconnaît qu'il est peut-être Asperger, justement.
Oui,
que c'est ce qui explique une partie de son fonctionnement un peu atypique.
Oui, tout à fait. Il l'a reconnu, effectivement, je crois que c'était en 2021, lors du Saturday Night Show, où... Alors, et en plus, il l'emballe que dans une blague assez étrange en disant ça au milieu de l'émission alors qu'on lui pose pas la question. Ça explique certainement le côté totalement génial. Enfin, genre, les gens qu'on a rencontrés, qui l'ont côtoyé de très près, c'était ses bras droits chez SpaceX, Twitter ou encore Tesla, nous disent il est d'une intelligence effrayante.
Ouais. Effrayante. Mais très froide, tellement... très mécanique. On se demande s'ils ne considèrent pas les gens comme étant des robots.
C'est ça, mais c'est encore une fois...
Mais c'est presque le cas, finalement. Des robots qui doivent travailler.
Oui, effectivement, ils travaillent 15, 16 heures, 18 heures par jour, s'il faut. À un moment, effectivement, où c'était très compliqué chez Tesla, on était en 2018, on se demandait si la Model S allait réussir à sortir des usines parce qu'il y avait des problèmes de production.
Et c'est incroyable, il demande à ses employés de livrer le 18 juin, je crois, X modèle au premier client, alors qu'on est à 3 mois et que c'est absolument impossible de livrer.
Ils le font.
C'était, il n'y a pas le choix, en fait. C'était la Model S, effectivement, en 2012. C'est ce qu'on dit. On ne dit pas non à Elon. En fait, il arrive, effectivement, ce jour-là, il dit, j'ai déjà vendu les voitures. L'ingénieur en chef dit, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas une seule qui tient la route. Il fait, oui, mais c'est pas grave, c'est dans 4 mois. Et voilà, on se débrouille avec ça.
Mais justement, est-ce que vous avez réussi dans votre enquête à voir des sortes de contre-pouvoirs parmi ses proches, des gens qui arrivent à le percer un peu, à le connaître sur le plan émotionnel, à lui dire non, ou ça n'existe pas ?
Ça n'existe pas, à part peut-être Robert Bob Jubrin, qui a été le seul, en tout cas,
dont on parlait au début, là.
Effectivement, son mentor, la figure tutélaire, qui, quand il a racheté Twitter, lui a envoyé un message en disant « Tu te trompes, rappelle-toi, tu perds ton temps, ton objectif, c'est Mars. » Tu perds ton temps. Ouais. C'est le seul, mais les autres, c'est pas possible. Ils n'entendent pas. Et ceux, on raconte aussi ça dans le livre, effectivement, le directeur commercial de Twitter, sachant que c'était en gros le numéro de Twitter.
Qui lui résiste.
En 24 heures,
il 24 heures.
Le temps.
Il découvre tout de suite qu'il a plus le boîte mail.
C'est à l'américaine, effectivement. Ouais. Vous êtes déconnecté, on vous raccompagne par la sécurité.
Alors vous rappelez cette phrase, tu perds ton temps avec Twitter, n'oublie pas que ton objectif, c'est Mars. Mmh. C'est vraiment son objectif et tout ce qu'il a fait depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il faut des voitures électriques pour aller sur Mars, des voitures autonomes, des satellites? Tout ça, c'est pour aller sur Mars?
Oui. Alors effectivement, c'est vrai que quand on regarde comme ça un peu de manière extérieure l'Empire, on se dit mais c'est foutraque, ça n'a pas... Enfin, il n'y a pas de ligne directrice en fait, mais tout a une ligne directrice. Déjà, tout doit faire pour gagner de l'argent, parce qu'il faut énormément d'argent évidemment pour faire des fusées aller sur Mars. Mais si on regarde brique par brique, les fusées, bon ça c'est logique, c'est aller sur Mars effectivement. Quand on arrive sur Mars, il faut de l'énergie. Comment on fait de l'énergie? C'est Solar City, c'est des panneaux. Quand on habite sur Mars, aujourd'hui avec les radiations, vous restez 24 heures, en gros l'être humain meurt immédiatement, donc il faut pouvoir faire des tunnels, c'est The Boring Company. On pourrait encore détailler, mais tout est fait effectivement autour de cette mission, et lui il est persuadé, en gros, en résumé, que la planète Terre est déjà condamnée. Pour lui c'est acté, c'est comme ça, donc il faut penser, pour sauver l'homme et l'humanité, à en faire une espèce multiplanétaire et donc commencer par Mars avec les colonies pour ensuite coloniser les autres planètes alentours.
En attendant, il fait sa Musk City. Elle n'est pas sur, elle n'est pas sur Mars, mais elle est là. Là, ça ressemble quand même à un truc de gourou qui met sa secte autour de lui. Parce qu'il y a quand même toujours cet aspect fascinant où ça devient un gourou.
Mais c'est un gourou. Pour nous, on a passé une semaine au Texas. Les gens qui vous parlent de Musk, il y a une sorte de communauté qui s'est créée, de fans mais plus absolus, qui vous en parlent comme d'un gourou, de quelqu'un qui va sauver l'homme, qui va révolutionner la planète et qui faut suivre. Quoi, je veux dire, il y a des gens qui ont déménagé par centaines pour aller à la Musk City.
Il y a la Musk City. Il y a une piscine. Hein,
il y a déjà une piscine. Il y a effectivement un gymnase.
C'est pas fini de construire.
Non, c'est en cours de construction. Mais il y a déjà des projets de plusieurs centaines de maisons. A priori, c'est 1400 hectares. C'est pas la superficie de Saint-Tropez. Donc c'est pas petit. Il pourrait accueillir plusieurs milliers de salariés. Parce que l'idée, c'est de faire une sorte de phalanstère moderne où on pourrait à la fois vivre. Il proposera des loyers 3 fois moins élevés qu'alentour et travailler. Alors effectivement, on peut aussi voir une secte et avec toutes les dérives qu'il y a autour. L'autre.
Ça s'appelle Stellbrook, pour ceux qui veulent investir.
Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Pour ceux, c'est à 1 heure d'Austin, si vous avez envie d'aller habiter là-bas. Ce qui est intéressant aussi, à mon avis, on le voit en tout cas avec ma co-autrice, comme une sorte de grande répétition pour une colonie martienne. Il y a aussi ça. Hein.
Alors, vous disiez, c'est intéressant, vous disiez, il pense que la planète Terre, de toute façon, est condamnée, donc Mars, mais il pense aussi quelque part que l'homme est peut-être condamné avec l'intelligence artificielle.
Oui.
Il est un des premiers à investir dans ce qui va devenir ChatGPT. Racheté depuis par Microsoft en partie, mais il dit aussi l'homme va être dépassé par l'IA, c'est inéluctable, on est mort. Donc il faut d'où l'homme augmenter avec des puces dans le cerveau, par exemple.
Oui. L'intelligence artificielle, c'est sa grande crainte, c'est sa grande angoisse. Lui, il est persuadé, il le dit d'ailleurs, il dit c'est bien pire que la bombe nucléaire. Et il se pose même la question si on n'est pas juste une sorte de demeureur biologique pour cette intelligence supérieure.
On est juste un chaînon en fait. Hein.
C'est ça, effectivement. On est un intermédiaire avant une forme d'espèce supérieure. Donc il se dit, voilà, ça c'est acté. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, il faut normer, il faut pouvoir cornaquer légalement l'IA et faire en sorte que ça échappe à des grands groupes ou en tout cas à des gens qui seraient mal intentionnés. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, venant de la part d'un libertarien ouais. qui ne veut pas des règles, mais là, quand ça l'arrange, de la même façon qu'il aime bien prendre l'argent de l'État public, c'est une autre question. Et par ailleurs, il se dit, bon, dont acte, pour résister, il faut que l'homme soit augmenté. Donc, il faut mettre des puces. C'est
le d'où Neuralink.
Effectivement, ouais. qui est une interface homme-machine qui nous permettrait, ça c'est la promesse, on n'est pas sûr que ça soit possible, mais effectivement, d'augmenter notre mémoire, d'augmenter notre capacité à réfléchir et éventuellement, effectivement, de nous mettre en lien direct avec Internet. Et donc, ce qui nous permettrait, selon lui, de résister un peu à l'intelligence artificielle qu'il voit comme une espèce de dictateur omniscient et immortel.
Est-ce qu'il peut encore trébucher, l'homme qui vaut aujourd'hui de fortune 200 milliards de dollars, juste derrière Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche du monde?
Oui. C'est l'éternelle question. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on a tellement dit « il va se planter ». Que
ah oui. j'aurais du ça mal à dire. Ça nourrit même presque.
Voilà, j'aurais du mal à dire. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde Twitter, qui devrait perdre 30% de son chiffre d'affaires, 80% des salariés sont partis, on se pose des questions, mais on lui a tellement prédit la faillite que je n'irai pas jouer les Cassandres et dire qu'il va se planter. Je pense que quand même, il a un projet solide. Il a été débauché, effectivement, une nouvelle directrice générale, parce que quand même, il a bien conscience qu'il n'est pas tout à fait dans son champ de compétences absolue. Donc, il faut voir.
C'est peut-être pas sur un siècle qu'il faut juger Elon Musk, c'est peut-être sur un millénaire, c'est peut-être plutôt ça son
horizon. Ce qui est certain, c'est qu'il marquera l'histoire. En bien ou en mal, ça c'est une autre question, mais il marquera l'histoire.
Voilà, l'enquête inédite par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu. Inédite parce que vous avez rencontré beaucoup de proches d'Elon Musk dans la période récente. C'est même.
Mais pas lui, jamais.
Non, mais Elon Musk.
Nous non plus, on a
failli. Non, mais nous non plus, c'est
oui,
pas un reproche.
Non, mais c'est.
C'est pas faute d'avoir essayé.
Oui, on avait beaucoup essayé, mais Elon Musk déteste les médias et quand on a 130 millions de followers sur Twitter, on a peu besoin des médias.